Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Chers auditeurs, chers téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre émission spéciale avec Alberto Serroso, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Dans cette séquence, nous ouvrons le micro à nos auditeurs. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, dans cette partie, nous allons donner la parole à nos auditeurs qui sont un peu partout dans le pays. Nous allons commencer par Bamako, ensuite nous irons à Badjangara, ensuite à Gao, et également il y a des membres de la société civile également qui ont tenu à poser des questions durant cette seconde partie. Et la première intervention nous vient d'un économiste qui vit ici à Bamako, il se nomme Moulibo Mao Makalou. Sa question se porte vraiment sur l'état, la relation entre l'Union européenne et le Mali par rapport au volet économique.
L'Union européenne, avant la crise multidimensionnelle de 2012 au Mali, était quand même l'un des plus grands partenaires techniques et financiers, notamment en matière d'infrastructure. Je pense que l'assistance était aux alentours de 1 milliard d'euros chaque année. J'aimerais savoir si l'assistance est toujours au même niveau et si l'Union européenne est toujours présente au niveau de l'assistance concernant les infrastructures au Mali actuellement.
Vous avez compris sa question?
Oui.
Alors, monsieur l'ambassadeur, que pouvez-vous répondre à Moulibo Mao Makalou?
Oui, d'abord, il faut dire qu'il y a pas mal de gens qui pensent que l'Union européenne a quitté le pays après les problèmes qu'il y a eu. Mais ce n'est pas vrai. L'Union européenne continue à être présente dans les pays. L'Union européenne continue à travailler avec le Mali, à coopérer avec le Mali. Comme je dis auparavant, et dans les trois dernières années, on a versé plus de 100 milliards de francs CFA dans différents projets. Et c'est vrai que la situation de sécurité dans tous les pays a eu un impact assez fort. Et, pas seulement sur les projets de l'Union européenne, mais tous les projets des bailleurs de fonds. Alors, on a dû s'adapter à ça parce que, malheureusement, il y a des régions, il y a des zones du pays où est très difficile et où maintenant c'est impossible de travailler. Et c'est pour cela qu'on a dû redresser un peu notre présence. Mais nous continuons à avoir des projets, nous continuons à avoir des fonds pour des projets ici au Mali. Mais c'est vrai que pour le futur, surtout l'auditeur parlait des infrastructures, c'est vrai que on aurait besoin d'une amélioration générale de la situation de sécurité dans le pays, parce que normalement, par exemple, l'Union européenne a travaillé beaucoup sur les volets des routes dans les pays et entre différentes villes. Alors, ce sont des projets qui, maintenant, sont difficiles à gérer parce que, par des questions de sécurité. Alors, on espère retourner à travailler dans ces domaines dans tous les pays une fois que cette situation soit résolue et qu'on revient à une situation de sécurité améliorée pendant les prochaines années. Alors, la volonté est là et on va voir. On va voir.
Merci. Merci déjà pour cette première réponse. Nous allons toujours continuer les questions sur le volet économique. Direction le centre du pays, plus précisément la région de Badjangara, cercle de Bankas, pour écouter la question de cet auditeur.
Quels sont les principaux freins au développement des échanges commerciaux entre l'Union européenne et notre région? Et quelles solutions préconisez-vous pour un partenariat économique plus équilibré?
Bon, encore une fois, le problème, c'est que les échanges économiques et commerciaux entre le Mali et l'Union européenne sont très impactés aussi à cause de la situation de sécurité, parce que il y a beaucoup d'entreprises européennes ici au Mali, qui continuent à travailler au Mali. Mais vous le savez, si on parle par exemple des domaines de le transport des produits maintenant c'est compliqué d'arriver d'amener les produits des ports de Dakar à Bamako. Alors, malheureusement, la situation de sécurité a un impact négatif sur les investisseurs qui avant étaient prêts à venir et à investir dans les pays. Alors, encore une fois, je crois qu'il faut essayer de travailler avec le gouvernement de Mali pour améliorer cette situation de sécurité, pour attirer et faire, surtout pour attirer, faire le Mali une destination attirante du point de vue économique et commercial. Je crois qu'on va arriver. Il y a encore des échanges, mais c'est vrai que ces échanges ont diminué pendant les dernières années à cause de ça. Mais bon, on continue à travailler avec les secteurs privés. Aussi, on continue à travailler avec les secteurs privés de l'Union européenne pour expliquer quelles sont les opportunités du Mali. Et on verra si, pendant les prochaines années, on arrive à récupérer les niveaux d'échanges qu'on avait dans le passé.
Mais concrètement, ces échanges commerciaux entre le Mali et l'Union européenne, ça concerne quel domaine d'activité en général?
Normalement, sont les plus importants pour le Mali sont les ressources naturelles. Et normalement, c'est les cotons, après l'or, c'est les cotons. C'est coton en français?
Oui, c'est ça.
Ce sont des produits, des ressources naturelles qui sont très appréciées en Europe. Et je crois que dans les domaines commerciaux, ça sont des. L'or, je ne suis pas sûr, mais les cotons, je crois que nous sommes des clients naturels du Mali. Non? Et alors, comme je dis, on verra si la situation de sécurité améliore pour récupérer les niveaux.
Monsieur l'ambassadeur, cette fois-ci, nous allons écouter deux questions qui nous viennent d'un membre de la société civile, plus précisément du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. La question vient de Mamadou Lamine Ban. Nous allons écouter sa première question.
Mamadou Lamine Ban, chargé des questions migratoires au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Ma première question à son Excellence, Monsieur le représentant de l'Union européenne, sur la protection des Maliens à l'étranger. Comment l'Union européenne peut-elle renforcer son appui à la protection des migrants maliens, notamment face aux violations des droits humains, aux expulsions brutales et aux réseaux de traite dans les routes migratoires?
Vous avez compris la question?
Oui. Merci. Bon, comme je disais avant, je crois que parfois, c'est vrai qu'on a eu des moments de violations, pour ainsi dire, si est-ce qu'on peut parler de violations, des agressions des immigrés en Europe. Mais vous savez, en Europe, les lois, comme ici au Mali, et tous les pouvoirs politiques et publics sont pour la protection des citoyens. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des minorités qui décident de faire des agressions. Mais je crois que dans tous les pays de l'Union européenne, quand ces sortes de choses arrivent, la justice, la police et la justice a été appliquée. Et il y a eu pas mal de condamnations en Europe à cause de cette sorte d'agressions. Racistes ou agressions contre les immigrés. Même, si vous savez, malheureusement, je suis d'Espagne, j'ai vu ça, et en Espagne, on a eu aussi, par exemple, aussi dans le monde de le sport, on a parlé du football avant, et il y a eu parfois où il y a eu des cris contre des joueurs africains. Bon, la loi a été appliquée, et les clubs ont été sanctionnés. Et aussi, il y a eu des sanctions fortes. Alors, malheureusement, il y a toujours des gens qui sont prêts à faire des choses affreuses. Mais je crois qu'il faut faire la confiance au système, parce que vraiment, je crois que le système marche et fonctionne. Et parce que la police travaille et la justice travaille. Il y a eu des condamnations à cause de ça. Et pour les réseaux de migration, on a parlé déjà on a parlé de ça. Et si on est, comme je dis auparavant, c'est pas que l'Union européenne est contre l'immigration irrégulière, c'est que l'immigration irrégulière, c'est une façon d'exploitation et de faire des abus contre les gens. Alors nous devons lutter contre ça. Et parce que sinon, on va continuer à avoir des problèmes et on va continuer à avoir des milliers de citoyens africains qui sont morts, qui ont disparu dans cette route. Alors, comme je disais auparavant, on a les côtés positifs de l'immigration qu'on embrasse et qu'on aime et que nous voulons et nous avons besoin de ça. Mais il y a aussi les côtés négatifs qu'on doit coopérer ou collaborer pour lutter contre ces mafias qui, à la fin, gagnent de l'argent avec la souffrance des Africains.
Alors justement, je me permets de poser une question sur ce volet. Comment l'Union européenne concilie-t-elle donc la lutte contre l'immigration irrégulière avec la nécessité de promouvoir la mobilité légale, notamment pour les étudiants, les travailleurs, les jeunes Africains?
Vous savez, il y a des projets qu'on appelle, il y a des pays de l'Union européenne qui sont déjà en train de les faire. Et on appelle l'immigration circulaire. Cela veut dire que tous les années, il y a des milliers de postes de travail pendant une saison limitée. Et je ne sais pas, par exemple, en Espagne, pendant l'été, on avait besoin de je ne sais pas combien de travailleurs pour travailler dans quel secteur. Alors, il y a des postes qui sont publiés, qui sont envoyés à un pays comme le Sénégal ou je ne sais pas d'autres pays. Disons, on avait besoin de ça. Alors, on fait tout un système pour donner des visas, des travail pour ces gens, et ces gens vont aller avec la sécurité sociale, avec la sécurité physique, avec un salaire. Et ils vont aller travailler en Europe pendant 2, 3, 4, 5 mois. Et après, on va revenir. Et ils peuvent faire ça tous les années. Ils reviennent avec un salaire qui est un salaire européen. Alors, ils peuvent investir ici en Afrique. Et alors, ce sont des projets qui sont très utiles et qui... Et bien sûr, on a besoin d'une collaboration très étroite entre les pays européens et les pays africains. Mais c'est une façon d'éviter que les gens décident d'aller tout seuls et traverser la mer et arriver en Europe. Arriver en Europe, à la fin, parfois, pour se faire agresser, pour habiter dans les rues, pour être exploité, parce qu'il faut dire, et ça c'est important aussi, il y a pas mal des immigrés irréguliers qui sont contratés pour des entrepreneurs européens, mais qu'ils payent très mauvais, parce que comme ils sont irréguliers, et ils ne payent pas la sécurité sociale, ils sont complètement sans protection. Alors, et c'est clair qu'il y a des Européens qui profitent de ça, et si un entrepreneur européen fait ça, il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes avec la police et la justice parce que ça c'est illégal. Alors, je crois qu'il faut mettre en place des systèmes pour donner la possibilité aux citoyens africains de travailler en Europe de façon régulière, même si c'est avec des limites de 3-4 mois, mais qu'ils vont être protégés et ils vont revenir. Avec cet argent gagné, ils vont aider la famille, ils vont peut-être ouvrir un business, etc. Alors, ce sont des projets qui existent déjà et que je crois qu'il faut vraiment les utiliser pour ça.
Alors, nous allons continuer avec Mamadou Lamine Ban du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur, cette fois-ci, pour écouter sa deuxième intervention.
L'Union européenne est-elle disposée à soutenir davantage des mécanismes portés directement par les organisations de la diaspora malienne, notamment par le Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur, dans le domaine de l'investissement, de l'emploi des jeunes et dans le transfert des compétences?
Vous savez, il y a ici une organisation qui s'appelle les ambassadeurs... C'est une organisation des Maliens qui ont vécu, même qui vivent aussi en Europe, mais qui reviennent pour faire des investissements en Mali. Et, excusez-moi, j'ai oublié les noms, c'est quelque chose des ambassadeurs. Mais alors, c'est une organisation avec laquelle on travaille parce que c'est une façon de aider la diaspora malienne à revenir au Mali avec des projets de développement Et alors, nous travaillons avec eux et parce que je crois que c'est la meilleure façon d'essayer de donner des travail aux jeunes africains avec des projets qui sont des projets des Maliens et pour les Maliens. Alors, c'est un exemple. Alors, je ne sais pas maintenant avec les conseils des Maliens à l'extérieur, je crois qu'on peut toujours travailler, on peut toujours avoir explorer des lignes de collaboration parce que pour moi, ce sont des projets très intéressants. Parce que, comme je dis, les Maliens connaissent le Mali beaucoup mieux que nous. Alors, s'il y a des Maliens qui viennent d'Europe avec l'expérience qu'ils ont gagnée en Europe, et avec aussi l'argent qui vient d'Europe, et on va les accompagner parce que vraiment, je suis sûr qu'ils savent beaucoup mieux que nous ce qu'on a besoin de faire ici.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous écoutez ce numéro spécial de Grand Dialogue où nous recevons Alberto Cerezo, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Direction le centre du pays, nous retournons encore dans la région de Badiangara pour écouter deux questions d'un auditeur.
Face aux crises humanitaires qui touchent la région, quelles sont les priorités actuelles de l'Union européenne pour garantir pour que les dirigeants parviennent rapidement et sans entrave aux populations les plus vulnérables?
Les priorités humanitaires?
Oui.
C'est travailler d'abord avec tous les déplacés internes qu'il y a dans l'auditeur a parlé du Sahel en général, de la région. On peut parler aussi du Mali parce qu'on a parlé beaucoup des émigrés, on a parlé beaucoup des émigrés irréguliers, mais on ne doit pas oublier aussi les déplacés internes. Dans le Mali, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont été obligés à abandonner leur village, leur maison, et à cause de la question de sécurité. Et il y a des gens qui décident de traverser la frontière et arriver à d'autres pays de la région, mais il y a des gens qui restent ici dans les champs de déplacés. Alors pour nous, ça c'est une priorité parce qu'ils sont déjà là et il faut travailler avec eux. C'est pour cela qu'on travaille beaucoup à travers du bureau humanitaire de l'Union européenne ici, ECHO, qui est ici depuis des années. Et aussi, on collabore avec d'autres organisations internationales qui sont dans les pays, comme des Nations Unies, l'OIM, etc., pour assister de façon immédiate à ces gens qui ont tout perdu. Et alors, pour nous, je crois que ça, c'est la première priorité. C'est vrai qu'il y a aussi une population des émigrés qui sont partis et qui sont dans d'autres pays. Mais il y a aussi des collaborations avec d'autres pays pour les assister. Non, mais ici, dans les pays, je crois que le plus important, c'est donner des services basiques à ces gens qui ont dû abandonner leurs services de l'eau, services médicaux, etc., et qui ont abandonné leur village. Et malheureusement, à cause de la question de sécurité, et ça arrive tous les jours. Il y a tous les jours des citoyens maliens qui sont obligés à partir et laisser leur village. Et parfois, on a eu aussi, comme il y a eu les terroristes ont brûlé les villages et ils ont tout perdu. Non? Alors, je crois que vraiment, en coopération, en collaboration avec les autorités, et on est en train de mobiliser les fonds, les ressources pour assister et aider à ces populations à surmonter cette situation et dans le futur, voir s'ils peuvent revenir chez eux.
Alors, au-delà de ces personnes déplacées internes, monsieur l'ambassadeur, il y a également le cas des réfugiés qui vivent au Mali également. Est-ce que ce cas est pris en compte dans ce volet-là?
Des réfugiés qui ne sont maliens?
Des réfugiés qui vivent au Mali, des pays d'environnement ont quitté la crise sécuritaire pour venir se réfugier dans des zones du Mali.
Oui, tout à fait. Nous travaillons aussi avec l'OIM, l'Organisation internationale de migration, parce que normalement, en Europe, on pense qu'il y a des millions d'émigrés qui arrivent en Europe, mais la plupart des émigrés africains restent en Afrique. Ici, ici au Mali, il y a des déplacés internes, mais aussi il y a des émigrés. Alors, on travaille avec eux aussi, pas seulement, comme je disais, au niveau de l'Union européenne, avec des organisations comme la OIM pour les assister, pour les aider, pour les garantir des services aussi basiques. Mais aussi, il y a des pays membres de l'Union européenne qui travaillent dans ces domaines. Parce que quand je parle de l'Union européenne, il faut ajouter aussi ce que tous les pays membres font, parce que je sais qu'il y a des projets. C'est pour cela que ensemble, l'Union européenne et les pays membres sont peut-être les premiers bailleurs de fonds. Alors, oui, on travaille avec eux, mais toujours en collaboration avec des organisations des Nations Unies, parce que c'est vrai qu'on a besoin vraiment d'une coopération internationale très grande parce que la tâche, c'est énorme. La tâche est énorme. Ouais.
Monsieur l'ambassadeur, nous restons toujours à Badjangara pour écouter cette question d'auditeur encore.
Nous savons aujourd'hui que beaucoup de jeunes entrepreneurs et d'agriculteurs peinent à accéder au financement. Comment l'Union européenne peut-elle réorienter ou intensifier son soutien pour dynamiser le tissu économique local et encourager l'entrepreneuriat des jeunes?
Voilà. Et vous savez, il y a quelques... Une des premières choses que j'ai fait quand je suis venu ici, j'ai visité Tafara dans la commune de Mandé, parce qu'il y avait là-bas le Fest par Grig, c'était une sorte de foire agricole de la commune où il y avait des entrepreneurs qui ont exposé les produits. Et l'Union européenne a travaillé avec la commune pour les aider. Ce sont des petites. Normalement, on ne parle pas des grandes entreprises, ce sont des petites entreprises parce que nous croyons que. Et c'est fondamental. Quand on parle du secteur privé, parfois on pense des multinationaux, les multinationales, tout ça. Non. C'est fondamental pour un pays comme le Mali d'avoir des petites entreprises partout parce que ce sont les petites entreprises celles qui peuvent vraiment créer le niveau d'emploi que le Mali a besoin. Le Mali, comme je disais auparavant, la plupart des citoyens ont moins de 30 ans. Les pouvoirs publics, avec l'argent public et même les bailleurs de fonds qui nous gérons l'argent public, on n'a pas la capacité de créer le nombre d'emplois que les citoyens jeunes maliens ont besoin tous les années. Alors, c'est pour cela que c'est très important de travailler avec les secteurs privés et surtout avec les petites et moyennes entreprises. Alors, je suis allé là-bas parce qu'on a aidé la commune et à toutes ces sortes de pays. Il y avait des entreprises de tout. Il y avait des entreprises, des petites entreprises agricoles, des entreprises. Il y avait, je me souviens, une entreprise qui avait créé des cuisines solaires pour les gens ruraux. Alors, vraiment, il y a beaucoup de talents ici au Mali et je crois qu'il faut l'aider. Alors, nous sommes en train de travailler avec ces secteurs privés petits et moyens qui, à mon avis, c'est vraiment le futur du pays. On a besoin d'une raison énorme dans tous les pays des petites et moyennes entreprises pour créer l'emploi et éviter que les gens, comme on dit avant, soient oubliés à partir du pays.
Alors, le second point de la question de cet auditeur également, c'est par rapport à l'accès au financement. Est-ce qu'aujourd'hui, des jeunes, il y a des projets porteurs où l'Union européenne lance des projets pour financer, par exemple, des projets des jeunes à
travers le
pays?
Voilà, c'est ça. C'était un projet comme ça.
C'était
un projet comme ça, mais toujours des petits projets. Des petits projets. Parce que si on parle de grands financements, ça, c'est un problème en Afrique, parce que c'est vrai que pour les grands financements, on a besoin de la banque privée et pas tous les citoyens ont la possibilité de ça, et ça, c'est normal. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus qu'il faut travailler avec les petites entreprises.
Alors, monsieur l'ambassadeur, nous allons à Gao, au nord du pays, cette fois-ci pour évoquer une question sur le volet sécuritaire.
Nous savons tous que notre pays est confronté à plusieurs crises. Aujourd'hui, nous savons très bien que des partenaires sont réticents par rapport à leur investissement dans notre pays. Je souhaite savoir, est-ce que l'Union européenne, en tant qu'une organisation sérieuse, dynamique, peut aider ou bien va aider le pays à combler le gap qui existe aujourd'hui en termes sur le plan humanitaire dans notre pays?
Je n'ai pas bien compris, c'est humanitaire ou sécuritaire?
Sécuritaire, voilà.
Voilà, et comme je dis auparavant, et on a ici la mission Nukab Sahel Mali, qui est une mission qui a été créée il y a 13 ans, est une mission civile, de sécurité civile. Cela veut dire que la plupart des experts détachés qui viennent de l'Europe sont des policiers, des gendarmes, et ils ont une collaboration très étroite avec le ministère de la Sécurité, aussi le ministère de la Justice. On travaille, par exemple, on a des projets de la construction de la cité de la justice de Mopti. Et on est en train de construire aussi la cité de la justice de Calles. On est en train de construire aussi un poste frontalier entre le Mali et la Guinée. Et aussi, on fait des formations techniques dans les domaines des contrôles des frontières, dans les domaines de contrôle de la migration. Alors, la sécurité a beaucoup de visages. Parce que c'est vrai qu'on pense que la sécurité, c'est seulement lutter ou combattre les terroristes dans les champs de bataille. Non, la sécurité est beaucoup plus que ça. Alors, nous, à ce moment-là, nous sommes focalisés sur ça. Parce que nous croyons, par exemple, que le contrôle des frontières, c'est fondamental dans un pays. On a vu comment les terroristes, les FAMAS, doivent lutter contre les terroristes, mais ils s'enfuient, ils traversent les frontières comme ça. Alors, c'est une chose qu'on a la connaissance de ça et on offre ça au gouvernement et nous sommes très focalisés. Je crois que la tâche du point de vue sécuritaire est énorme et aucun partenaire du Mali peut tout faire. Et il y a d'autres partenaires qui font d'autres choses. Nous avons focalisé nos collaborations dans ces domaines.
Et retour à Bamako cette fois-ci pour aller joindre Abdoulaye Guindo de la plateforme Bembéré. Bembéré, c'est une organisation de jeunes blogueurs au Mali et il pose des questions. Nous écoutons d'abord la première.
Et malgré l'ampleur et la diversité des actions que l'Union européenne mène au Mali, la visibilité de ces projets demeure insuffisante auprès des populations. Et à cela s'ajoute la désinformation et les campagnes de manipulation de l'information visant ces actions. Face à ce constat, quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place pour améliorer la communication locale afin que les populations et les acteurs nationaux comprennent et reconnaissent l'impact réel de la coopération européenne au Mali?
Bon, merci beaucoup parce que la question, c'est très, très important. Et vraiment, il a demandé quelque chose qui, pour nous, c'est une des priorités. Alors, je remercie l'auditeur pour demander ça parce que je crois que c'était une chose très importante. C'est vrai, je disais avant qu'il y a pas mal de gens dans le pays qui pensent que l'Union européenne a quitté le pays, ce qui n'est pas vrai. Alors, une des erreurs, c'est notre faute, c'est à nous de changer ça, parce que c'est vrai qu'on a eu des problèmes pour communiquer. On a fait beaucoup de choses pour les populations, pour les citoyens, et même les gens ne savent pas, ou même les gens pensent que l'Union européenne a des intérêts obscurs. Et on n'a rien à cacher, mais c'est vrai qu'il faut communiquer. Et c'est pour cela que je suis venu avec une des priorités de mon mandat, c'est ce que je peux dire de mon mandat, c'est d'améliorer la communication entre l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne et la population et les citoyens maliens. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. C'est pour cela que je vous remercie de l'opportunité, parce que vraiment, avoir l'opportunité de parler à la radio et que ma voix soit écoutée dans tous les pays, pour moi, c'est une opportunité vraiment que je vous remercie profondément. Et alors, on va faire cet effort de communication avec les médias. Et aussi, on est dans une campagne CAFO s'appelle, que c'est d'écoute, pour écouter les Maliens, parce que, comme je dis ici, nous sommes dans votre pays et vous connaissez le pays beaucoup mieux que nous. Alors, on va visiter des universités, on va visiter des écoles, on va visiter des institutions, pour écouter aussi, pour exprimer ce qu'on fait. Et aussi, c'est une façon de lutter contre la désinformation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, la désinformation, c'est un problème grave. Et si nous ne communiquons pas, à la fin, les gens vont dire n'importe quoi. Et il faut être toujours très présent pour lutter contre ça. Alors, comme je dis, à partir de maintenant, vous allez voir la délégation
nous
et moi-même.
L'Union européenne mieux communiquer.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Alors, toujours dans le volet de la communication, nous donnons la parole à Abdoulaye Guindo de la plateforme Bembéré. C'est d'ailleurs la dernière intervention pour cette émission.
Comment l'Union européenne prévoit-elle de renforcer la lutte contre la désinformation au Sahel, notamment sur les réseaux sociaux, pour protéger la légitimité et l'efficacité de ces projets? Merci.
La lutte contre la désinformation.
Oui.
Ça, c'est un défi qui existe partout, hein, dans tous les pays du monde, l'Europe aussi. Et malheureusement, on croyait qu'avec les réseaux sociaux, les gens allaient être beaucoup mieux informés. C'est vrai que nous sommes beaucoup plus informés, mais la qualité de l'information est pire, non? Alors, je crois que nous tous, nous devons faire l'effort et pour éviter ça, pour lutter contre ça. Et je dois dire que parfois, on pense que la responsabilité, c'est seulement des pouvoirs publics, des autorités. Mais je crois que nous tous, nous avons une responsabilité individuelle pour lutter contre ça. Nous tous, nous avons un téléphone mobile. Nous tous, nous avons des réseaux sociaux. Et nous sommes les premiers à republier n'importe quoi sans penser. Alors, je crois que la responsabilité commence là. Et je crois que je fais un appel, c'est pas seulement à l'Union européenne, au gouvernement ou à Mali, mais aussi à nous tous. Parce que la lutte contre la désinformation commence avec nous-mêmes. Et nous devons être responsables pour ça.
Monsieur l'ambassadeur, grand merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Mais avant de conclure, nous vous donnons la parole. S'il y a quelque chose que nous avons omis de dire ou si vous voulez revenir sur quelque chose, c'est le moment avant de clore cette émission.
Rien, vraiment remercier tous les auditeurs qui ils ont posé des questions très intéressantes. Et je crois que c'est ce qu'on veut, c'est ce dialogue entre nous et vous. Et pour moi, ça a été une expérience vraiment, vraiment très, 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 très positive. Et je suis prêt à la répéter si vous m'invitez. Merci beaucoup.
Et nous sommes prêts à vous recevoir à tout moment. Merci beaucoup Alberto Cerezo, nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Mali. C'est la fin de ce numéro spécial de Grand Dialogue de Studio Tamani. À la modération, c'était Mariam Maïga. À la régie son et vidéo, il y avait Nouhoum Djiré et Ibrahim Sanogo. Grand merci à vous, fidèles auditeurs. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.